De retour, et en fait, la prochaine demi-heure, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà, c'est pour la prochaine demi-heure. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, pour le premier segment, Mme Élise Duchesne. Bonjour, Dr Duchesne.
Bonjour.
Vous avez collaboré à une équipe transuniversitaire dont, entre autres, faisait partie Nicolas Dumont, professeur à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Vous-même, vous êtes à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et toute cette recherche tourne autour d'une maladie à la fois terrible, mais jusqu'à maintenant, en fait, incurable, la dystrophie myotonique de type 1.
Exactement.
Et là, il y a des avenues prometteuses. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la dystrophie myotonique de type 1?
Alors, la dystrophie myotonique de type 1, qu'on peut appeler DM1, est une maladie héréditaire qui est dominante, c'est-à-dire que lorsque un des parents est atteint, l'enfant à naître a une chance sur deux d'être lui aussi atteint. Donc, c'est une maladie qui se transmet de façon génétique. Et la maladie est multisystémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes du corps qui présentent des altérations.
Et dans ce sens-là, il va y avoir toutes sortes de, je m'excuse, il va y avoir toutes sortes de symptômes ou de manifestations. Donc, c'est une maladie qui est hétérogène. Là, c'est pas si facile à retrouver.
Exactement, c'est-à-dire que le système cardiaque peut présenter des problèmes, le système respiratoire, endocrinien, digestif et le système musculaire qui a fait plus précisément l'objet de notre étude.
D'accord. Et ça, c'est votre étude a lieu entre autres, bien, et surtout en fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a une particularité démographique.
Oui, tout à fait. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a un effet qu'on appelle l'effet fondateur. C'est-à-dire que lorsque cette région a été colonisée par les Français, les personnes qui sont arrivées dans la région, en fait, présentaient un bagage génétique qui était très homogène, c'est-à-dire peu de différence entre les individus. Et lorsqu'il y a peu de différence et qu'il y a présence d'anomalies, ben ces anomalies-là s'expriment davantage auprès des descendants. Et on a connu une forte colonisation. Donc, plusieurs personnes sont nées d'union des très grandes familles.
Oui.
Et ça a fait en sorte que ces défauts-là ont été transmis à un grand nombre de personnes. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est connu pour son effet fondateur. Donc, on ne parle pas de consanguinité. Donc, c'est pas...
C'est un mythe, là, des gens qui sont loin, qui disent que tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont des... Non, ça, c'est pas vrai. Il en demeure pas moins que la prévalence de la DM1, c'est 1 sur 500 au Saguenay, alors que c'est 1 sur 8000 ailleurs sur la planète. Alors, c'est une concentration importante.
Oui, c'est une concentration importante de patients. Et l'autre caractéristique, c'est que le Saguenay a été longtemps un peu considéré comme étant une île. C'est-à-dire, là, on a le parc des Laurentides, là, qui était une voie qui est très bien praticable. Mais si on remonte à 10-15 ans, c'était hasardeux de s'aventurer dans le parc des Laurentides. Donc, les gens qui vivaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean restaient dans la région. Donc, il y avait peu de mouvements migratoires. Donc, ces gens-là, ça a mené à une concentration là, assez importante de cette maladie-là, ce qui a comme caractéristique de nous aider, nous, les chercheurs, dans l'étude de ces maladies-là en raison de la concentration.
Bon, bien, maintenant qu'on a, si je peux dire, débroussaillé le terrain, puis on comprend un peu de quoi il en retourne. Maintenant, parlons du positif. Le fait d'avoir beaucoup de patients, ça vous a permis de mener une recherche pointue, efficace.
Oui, tout à fait. La recherche s'est déroulée en deux temps, je dirais. Bien avant mon arrivée dans la région, il y avait déjà une étude qui était en place, une étude, on appelle ça une étude d'histoire naturelle de la maladie. Donc, on recrute un grand nombre de participants et on évalue là, plusieurs systèmes de leur corps pour voir c'est quoi la sévérité des symptômes qu'ils présentent. Et lié à ça, il y a des prises de sang qui ont été prises chez ces patients-là aussi pour dire on va biobanquer ce sang-là, on va mesurer certains éléments précis à ce moment-là sans trop savoir si ça peut nous servir un jour, mais on aura des données déjà de collecter qu'on place dans une biobanque. La deuxième étape de cette aventure-là est quelques années après mon arrivée. Donc, je voyais les problèmes musculaires que vivaient les patients. Ça m'a mené à une hypothèse là, que je souhaitais valider, vraiment au niveau des cellules souches des muscles. Donc, je me suis, à ce moment-là, j'ai contacté mon collègue Nicolas Dumont, qui est un spécialiste de l'étude des cellules souches. Il travaillait pas du tout en dystrophie myotonique de type 1, mais on a parlé de mon hypothèse, on a parlé de comment son expertise pouvait répondre à cette hypothèse-là, puis comment qu'on pouvait collaborer pour aller confirmer l'hypothèse. Donc, on a développé ce projet-là avec un recrutement là, qui a eu lieu là, de patients dans les années en 2019. On a recruté des patients et ont été assez généreux pour qu'on accepte la biopsie musculaire, qui est un prélèvement de muscles littéralement là, dans la cuisse du patient. Suite à ça, on a étudié les cellules souches de ces patients-là pour se rendre compte que finalement, on est en train d'identifier une signature moléculaire qui était spécifique à la maladie.
Ils ont tous, même si les symptômes peuvent varier, ils ont tous quelque chose en commun.
Oui, c'était quelque chose de nouveau qui est connu dans d'autres maladies, mais qui n'avait pas encore été identifié en DM1, c'est la sénescence musculaire. Donc, c'est le fait que ces cellules-là deviennent trop vieilles, trop vite.
Okay.
Donc, puis quand les cellules rentrent dans le processus de sénescence, elles se mettent à sécréter des facteurs inflammatoires de façon anormale. Donc, elles intoxiquent un peu leur environnement.
D'accord.
Donc, tout ça explique pourquoi que les patients ont des problèmes au niveau musculaire. Donc là, nous, on l'étudie au niveau fondamental, mais on est allé raccrocher ça à ce qui avait été fait 20 ans auparavant, où le muscle avait été grandement étudié au niveau clinique et qu'il y avait des prises de sang qui avaient été prises et dans lesquelles certains marqueurs avaient été mesurés. Donc, on est vraiment parti du fondamental chez une quinzaine d'individus pour aller rechercher les résultats cliniques qui avaient été identifiés 20 ans auparavant, mais dans une grande cohorte. Donc, dans une cohorte de 103 individus. Puis ce mariage-là entre le clinique et le fondamental nous a permis de confirmer l'hypothèse. Donc, on est vraiment parti du plus petit. On est retourné au niveau clinique qui nous a permis de raffiner l'hypothèse et de retourner ensuite au niveau fondamental. Donc, c'est vraiment là en raison de l'implication importante des patients.
Oui, bien, c'est ça. Il y a 450 patients qui ont été recrutés et qui ont généreusement participé parce qu'il faut comprendre que s'ils sont atteints de la maladie, leur journée, leur quotidien n'est pas toujours facile. Là, maintenant, avec les données que vous avez amassées, puis le raisonnement qui s'avère être juste, est-ce qu'on a des pistes de solutions, de traitement un jour?
Oui, oui. En fait, ce que la nouvelle avenue thérapeutique que nous, on a ouvert, je dirais, là, en DM1, est une avenue qui existe déjà dans d'autres maladies. Donc, la beauté de la chose, c'est qu'il y a déjà des médicaments qui existent pour ça, dont les indications sont pour d'autres maladies.
Et qui peuvent être recyclés pour s'attaquer à cette maladie-là. Donc, c'est déjà quelque chose qui pharmaceutiquement existe.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des étapes de validation qui doivent être faites. Là, approuver une médication pour une maladie donnée, c'est un processus qui est très strict. Là. Donc, tout ça reste à faire, mais vous avez raison de dire que la pharmacologie derrière, elle existe déjà.
Oh, bravo! Alors ça, ça y est pour beaucoup, parce que souvent la recherche d'un médicament qui est spécifique à une maladie, là, c'est très coûteux et ça peut être encore plus long. Donc ça donne une piste. Est-ce que parmi est-ce qu'il y a des gens qui commenceront bientôt des tests préliminaires pour voir si comment vous allez fonctionner? Est-ce que ça commence par les souris ou par les patients?
Oui, ça commence. En fait, la recherche, on peut la diviser en deux grands volets. Il y a la recherche académique, ça c'est ce que moi je fais avec mes collègues.
D'accord.
Et il y a la recherche clinique, la recherche pharmaceutique.
Sur le terrain,
donc,
oui.
Oui, c'est ça. Donc, nous, le but de la recherche académique, c'est de faire avancer suffisamment les connaissances pour arriver avec une nouvelle avenue thérapeutique. Et là, après ça, on tombe dans le champ de la recherche clinique. Là, on est dans le privé, dans le pharmaceutique, qui, eux, vont reprendre les idées qu'on a générées pour voir s'ils peuvent développer un médicament. Donc, rendu là, nous, ce qu'on va faire d'un point de vue académique, c'est aller raffiner davantage l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on a observé le phénomène, là, on va essayer de le comprendre encore plus, on va publier nos résultats pour aller alimenter, pour aller, en fait, augmenter les connaissances dans cette maladie-là pour que les pharmaceutiques, puis là, il y a un mur de Chine entre les deux. Là. Nous, on n'est pas impliqués dans les pharmaceutiques. Donc, pour qu'eux, il y ait suffisamment d'éléments pour aller développer une drogue dont ils seront responsables.
D'accord, d'accord. Bien, c'est sûr que parmi tous les facteurs, tous les symptômes, pardon, les manifestations de la DM1, les problèmes musculaires sont presque au premier rang. Là. Et ça va permettre peut-être aussi de pallier à d'autres symptômes qui sont inhérents à la maladie. Alors, bravo. C'est sûr que on espère que tout ça débouche bientôt, un jour, sur un traitement là, et une forme de ralentissement de la maladie. Ben, merci beaucoup, Mme Duchesne. Vous avez du travail encore devant vous, là. Vous en avez fait pas mal, mais il en reste encore un peu. Mais
Ah oui,
ça fait une différence dans la vie de beaucoup de gens. Puis, on est content de voir que cette concentration au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, en fait, peut avoir un bon côté.
oui,
Voilà.
tout à fait. Puis l'implication des participants de recherche
Qui
là
veulent.
est incroyable. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a été capable de mener des travaux d'envergure.
Voilà, tout à fait. Et encore une fois, là, ben, on les remercie parce qu'ils font ça, pas juste pour eux, ils font ça pour beaucoup d'autres gens.
Oui, ah oui, ils nous le témoignent souvent qu'ils font ça pour l'ensemble de la communauté, donc ils sont très généreux de le faire.
Ben, c'est super. Merci beaucoup. On a hâte
Mais ça
d'avoir
me
des
fait
nouvelles.
plaisir. Merci.